Bonsoir à chacun. Quand on vient dans un lieu comme celui-ci, on est confronté à quelque chose, comme à ce chant que nous avons chanté tout à l'heure, « Que feras-tu de Jésus ?» Quand on vient dans un lieu comme celui-ci, qu'on écoute la parole de Dieu, on ne peut pas rester indifférent. On est obligé de prendre position, soit dans un sens, soit dans l'autre. Et en fonction de la position où nous nous mettons, alors, il y a certaines conséquences qui en découlent. J'aimerais d'abord commencer ce message en lisant deux textes. Le premier se trouve dans Job, au chapitre 14 et au verset 16. Job, chapitre 14, verset 16. Nous allons voir d'une même action de Dieu deux attitudes de cœur bien différentes. Ainsi, Job, c'est quelqu'un qui a été très éprouvé, c'est quelqu'un qui était aimé de Dieu, mais Dieu l'a fait passer par des moments très difficiles dans sa vie, et il a pu vérifier à la fin de ce temps que Dieu était bon pour lui, et que même ce qu'il avait vécu, c'était bon pour lui. Mais à ce moment-là, de cette épreuve, Job ne comprend pas ce qui lui arrive. Et il en vient à douter, et il dit, « Mais aujourd'hui, tu comptes mes pas, tu as l'œil sur mes péchés. Tu as l'œil sur mes péchés. » Job croyait que Dieu le surveillait, entre guillemets. Dans le psaume 56, on a une expression qu'on retrouve, et qui pourtant est d'une toute autre couleur. Psaume 56, versets 8 et 9. Verset 8 surtout, je crois que c'est verset 8. Tu comptes les pas de ma vie errante. Recueille mes larmes dans ton outre. Ne sont-elles pas inscrites dans ton livre ? On a là, de cette même action, Dieu qui compte nos pas, deux attitudes totalement opposées. On a pour l'un quelqu'un qui croit que Dieu compte ses pas en regardant son péché, prêt, entre guillemets, à lui sauter dessus au moindre écart. Et on a l'autre personne qui, elle, est consciente que Dieu compte ses pas, mais surtout pour être là à ses côtés. Surtout pour être là pour marcher à ses côtés. Jusqu'au point, comme il est écrit, de recueillir mes larmes dans une outre. Ça veut dire qu'elles sont toutes rassemblées et elles sont toutes inscrites dans un livre. Est-ce qu'il n'est pas beau ce verset ? La moindre de nos larmes, Dieu l'entend et Dieu l'écoute. De quel côté nous nous positionnons ? Est-ce que nous attendons ce Dieu juge ou est-ce que nous attendons celui qui veut marcher à nos côtés et qui compte nos larmes, qu'il sait par quelles difficultés on peut être ? Cet autre verset nous dit dans 1 Samuel chapitre 16 et au verset 7. D'une même action, on peut se retrouver dans deux positions différentes. Il est écrit que l'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Du fait que Dieu regarde à notre cœur, est-ce que nous y trouvons là quelque chose qui nous fait peur parce qu'on ne peut rien cacher à Dieu, ou est-ce qu'on y trouve plutôt une sécurité ? Parce que justement, on sait que même si on n'arrive pas à s'exprimer correctement, on sait que malgré tout, Dieu, il sait ce qu'il y a dans notre cœur. Il lit dans notre cœur comme dans un livre ouvert. Et même si parfois, quand on prie, on s'exprime mal, même si parfois, quand on est devant Dieu, qu'on est justement dans cette tristesse et que ce sont nos larmes qui parlent, Dieu, il lit dans notre cœur et nous y trouvons, pour celui qui a accepté Jésus dans sa vie, une pleine sécurité, une pleine confiance. Parce que le fait que Dieu lise dans notre cœur est au contraire une vraie sécurité. C'est quelque chose qui nous donne la paix quand on est chrétien. Alors que quand on n'est pas chrétien, quand on n'a pas accepté Jésus, le fait que Dieu regarde dans notre cœur, qu'on ne puisse rien lui cacher, on se dit, et si jamais Dieu venait à mettre au grand jour tout ce que j'aimerais cacher, qu'est-ce qui se passerait? Est-ce que vous savez que ce jour aura lieu? Ce jour aura lieu. On ne peut rien cacher à Dieu. Et un jour, comme nous l'avons chanté, il y aura un jugement. Il y aura un jugement, et dans ce jugement, nous, ceux qui n'auront pas accepté ce pourquoi Jésus-Christ est venu sur la terre, seront jugés par Dieu. Et tout ce qu'ils auront caché dans leur vie sera mis au grand jour, aux yeux de tous, aux oreilles de tous. Dieu compte nos pas, et Dieu compte aussi nos jours. Il y a ce verset dans Daniel, c'est un jugement contre un roi, qui dit « Comptez, comptez, pesez et divisez ». Et l'explication qui a été donnée à ce roi était celle-ci « Comptez, Dieu a compté ton règne et y a mis fin ». Il y a un autre verset dans les Actes qui parle des apôtres. Dans les Actes, au chapitre 1er, verset 17, il était question de Judas. Et il est dit ceci, il était compté parmi nous et il avait part au même ministère. Et pourtant, en ce qui l'a concerné, il a trahi Jésus. Et alors qu'il a trahi Jésus, il ne pouvait plus être compté parmi les disciples, parmi ceux qui aimaient Dieu. Belshazzar, c'est un roi qui avait vu ce qu'avait vécu son père. Son père, c'était Nabucodonosor ou Nabucadnezzar, qui lui avait vécu quelque chose de merveilleux avec Dieu et de terrible à la fois, parce que c'est quelqu'un qui vivait sur ses propres acquis, c'est quelqu'un qui vivait dans l'orgueil, c'est quelqu'un qui croyait que tout ce qu'il avait, tout ce qu'il possédait, toutes les victoires qu'il avait remportées étaient les siennes. Et un jour, l'orgueil était tellement haut, tellement élevé dans son cœur, que Dieu l'a rabaissé, au point de devenir semblable à la bête des champs. Et ça a duré quelque temps, jusqu'au jour où il a réglé le problème. L'épreuve, les difficultés peuvent durer longtemps, mais elles peuvent aussi durer peu de temps. Tout dépend au bout de combien de temps on règle ce qu'il y a à régler. Ce roi-là, Nabucodonosor, il s'est rendu compte de son péché et il a demandé pardon à Dieu et Dieu l'a rétabli dans sa fonction. Son fils a vu tout ça et malgré tout, il s'est comporté en se moquant de Dieu, en se moquant littéralement de Dieu. Et Dieu est intervenu et lui a annoncé ce jugement, que son règne était terminé. Ainsi, nous qui avons la connaissance, qui pouvons entendre la parole de Dieu, qu'est-ce que nous en faisons? Comment réagissons-nous à l'écoute de la parole de Dieu? Dieu est venu sur la terre. Il s'est fait homme et il est mort sur une croix. Son sang a coulé pour nous. Son sang a coulé pour que nous puissions être sauvés, pour que nous puissions être sauvés de nos péchés, parce que l'homme est pécheur. On est tous perdus. Il n'y a pas un seul juste, pas même un seul, dit l'Écriture. Seulement, il y en a un qui a marché, c'est Jésus, qui a marché sans commettre de péché. Et il est mort à la croix pour nous. Et la Bible nous dit que par ce qu'il a fait, par la mort qu'il a soufferte, par les souffrances qu'il a souffertes, nous avons la rédemption du salut. Il nous suffit juste de croire que c'est vrai. Ça s'appelle la foi. Celui qui a la foi va prendre la décision de croire, tout simplement. De croire que ce que je vous dis, ce que la parole dit, c'est la vérité. Et de croire que, pour être sauvé, comme le dit l'Écriture, si vous croyez que la Bible est la vérité, vous pourrez vérifier par vous-même, en fonction de ce qui est écrit, que pour être sauvé, il suffit simplement de croire que ce que Jésus a fait est suffisant. Il n'y a rien à rajouter. Par rapport à ce que Jésus a fait, il y a eu aussi à un moment donné deux attitudes différentes. Nous avons le premier, Judas. Judas a été parmi les disciples. Il a vécu pendant 3 ans et demi aux côtés de Jésus. Il a vécu des miracles. Il a prêché la parole. Il est allé de ville en ville. Il a reçu tout l'enseignement de Jésus au même titre que tous les autres apôtres. Et pourtant, Judas, un jour, a trahi Jésus. Quand on lit dans l'évangile de Matthieu, verset 3 du chapitre 27, on lit ceci. « En voyant que Jésus était condamné, Judas, qui l'avait trahi, fut pris de remords. Il retourna auprès des chefs des prêtres et des responsables du peuple et leur rapporta les 30 pièces d'argent. » Il fut pris de remords, il a regretté ce qu'il a fait parce qu'il a livré Jésus. Par son intermédiaire, Jésus a souffert. Par son intermédiaire, Jésus a pu être crucifié. Et le réflexe que Judas a, au lieu d'aller voir Jésus, il va voir les pharisiens. Il se trompe de personne. Il se trompe de personne, Judas. À côté de ça, on a quelqu'un, un autre apôtre qui lui aussi a vécu la même chose. Cet autre apôtre a accompli des miracles. Cet autre apôtre a même marché sur l'eau. C'est pas rien quand même, marcher sur l'eau. Comme quoi, on peut marcher sur l'eau, mais la vie quotidienne de tous les jours n'est-elle pas plus difficile que de marcher sur l'eau une soirée? Des fois, c'est ce qu'on peut se dire. Parce que l'apôtre Pierre, avec tout ce qu'il était, a quand même marché sur l'eau. Mais on voit que dans les petites difficultés quotidiennes, il s'est trompé à un moment donné de sa vie. Mais l'apôtre Pierre, il a eu un meilleur réflexe. L'apôtre Pierre, même s'il était un peu éloigné, était quand même à portée de regard de Jésus. Et c'est ce qui l'a sauvé. Il n'était pas encore trop loin. Quand je lis dans l'évangile de Luc, je lis ceci, « Le Seigneur s'étant retourné, regarda Pierre. Et Pierre se souvint de la parole que Jésus lui avait dite, « Avant que le coq chante aujourd'hui, tu me renieras trois fois. » Et étant sorti, il pleura amèrement. On a là la situation d'un apôtre qui a renié Jésus trois fois. Trois fois, il a nié de connaître Jésus, alors que c'était évident. Il avait l'accent galiléen, il faisait partie de la troupe, si je puis dire. Et trois fois, il a dit qu'il ne connaissait pas Jésus, alors que la nuit d'avant, il s'était déclaré tout feu, tout flamme pour Jésus. Et il lui a dit qu'il irait à la mort s'il le fallait. Et il s'est trompé sur lui-même. Il croyait qu'il en serait capable. Et quand il est trouvé dans la situation, il n'a pas pu résister. Par contre, le bon réflexe qu'il a fait, c'est qu'il a croisé le regard de Jésus. Malgré tout, pour que deux regards se croisent, vous savez, des fois... Je sais pas si ça vous arrive, des fois, vous regardez quelqu'un, alors qu'elle vous regarde pas, et à un moment donné, elle se retourne. C'est souvent quelque chose que je me dis, mais comment elle sait que je la regarde? Et la personne se retourne, et hop, les regards se croisent. Est-ce que Pierre a vécu ça? J'en sais rien. Mais à un moment donné, pour que Jésus puisse voir Pierre, et que Pierre puisse voir Jésus, il a fallu qu'ils se regardent tous les deux. Ça veut donc dire que Pierre, à un moment donné, il a cherché le regard de Jésus. Et leurs regards à eux deux se sont croisés. Et l'apôtre Pierre a vu dans ce regard-là qu'il était pardonné. Jésus ne l'a certainement pas fusillé du regard. Il a dû avoir un regard plein de tendresse, plein de compassion. Peut-être même qu'il a vu des larmes aussi. Parce qu'il voyait Jésus qui était peiné de voir que Pierre était tombé. Un berger est toujours peiné de voir une de ses brebis qui s'en va, qui tombe. Comme même dans nos familles, quand on voit dans nos familles nos enfants qui ont des difficultés, qui vivent mal certaines choses, on a de la peine, tout simplement. Et Jésus a eu cette même peine pour l'apôtre Pierre. Et ce regard croisé a changé la vie de Pierre. Pierre s'est repenti. Pierre a réglé le problème. Il a suffi d'un seul regard pour que la vie de Pierre soit changée. À partir de ce moment-là, Pierre n'était plus le même. Il y a autre chose que Dieu compte. Ce sont nos jours. Je l'ai déjà dit, parce qu'il compte nos jours. J'annonçais cela justement pour dire qu'à un moment donné, Dieu, il intervient dans nos vies. Nous sommes comme ce soir, peut-être, à un moment où on va pouvoir se positionner pour ou contre. Mais il y a un moment où, dans nos vies, on ne maîtrise pas nos vies. D'ailleurs, nos vies ne nous appartiennent pas. On ne sait pas ce qui se passe tout à l'heure, demain, même si on peut avoir des projets, mais qui sait ce qui va lui arriver? On n'en sait rien. Et il nous est très important qu'en vue de ce moment-là, nous soyons prêts et que nous ayons fait le bon choix. Quand Dieu aura décidé que nos jours soient finis, il nous reprendra, ou pas. Mais où est-ce que nous irons? Est-ce que nous le savons? Est-ce que ce soir, nous pouvons sortir de ce lieu en disant, si je devais mourir là, en sortant de la rue, je sais où je vais. Il y a un choix possible. Soit je suis réconcilié avec Dieu parce que je crois dans l'œuvre accomplie de Jésus, ou soit je n'ai pas fait la paix avec Dieu, et disons-le, si je venais à mourir, je vais en enfer. Il faut dire certaines choses. C'est de l'honnêteté, de la parole, que de vous dire que si vous ne vous repentez pas, c'est en enfer que vous irez. Dieu compte nos jours. Il sait exactement combien de jours nous avons, entre guillemets. Et nous aussi, nous avons à bien compter nos jours. C'est une parole qu'on retrouve dans le psaume 90, au verset 12. « Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. » Je reprends un verset qui a été cité dimanche dernier qui disait « La crainte de l'Éternel enseigne la sagesse et l'humilité précède la gloire. » Celui qui s'humilie devant Dieu, il aura cet espoir d'être à jamais glorifié. Quand le Seigneur Jésus reviendra ou quand il ira à la rencontre de Dieu, il est écrit que justement, celui qui croira, qui sera baptisé, sera sauvé. Sauvé, ça veut dire que quand Jésus reviendra ou quand l'heure de notre mort va sonner, c'est là-haut que nous irons. Et ce que nous avons cru ici-bas aura des répercussions dans le ciel. L'humilité précède la gloire, parce que c'est ici-bas que nous devons nous repentir. C'est ici-bas que nous devons reconnaître notre nature pécheresse. Et notre nature pécheresse nous prive de la gloire de Dieu. L'apôtre Paul dit ces choses-là, chapitre 3, verset 23, je crois. Tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu. Pour ceux qui sont chrétiens, c'est quelque chose que j'aimerais aussi évoquer rapidement. Comment employons-nous le temps que Dieu nous donne à vivre? Si vous regardez dans le deuxième livre des Rois, au chapitre 2, je vais juste l'évoquer sans le lire, mais je vous donne la référence, vous verrez que la dernière journée d'Élie, elle est particulièrement chargée. Particulièrement chargée. J'ai pris une carte et j'ai regardé. Élie part de Gilgal, il va à Bethel, environ 15 kilomètres. Il va faire une réunion. Ensuite, il part de Gilgal, il va à Jéricho, 7 kilomètres. Il fait une autre réunion. Et ensuite, de Jéricho, il va aller au Jourdain, 6 kilomètres à peu près. Ce qui nous fait un total de 22 plus 6, 28 kilomètres dans la journée, plus deux réunions, c'est pas mal. Et après, il y a l'enlèvement. Élie est enlevé. Dans sa dernière journée, Élie a obéi jusqu'au bout. Dans cette petite journée qui lui restait à vivre, Élie a bien employé le temps que Dieu lui avait laissé à vivre. C'est une question que je pose à nous, chrétiens, même à nous tous, parce que d'un jour à l'autre, le Seigneur Jésus peut revenir. Il suffit simplement de voir, quand on regarde ce qui est simplement décrit dans la parole, et quand nous regardons ce qu'il y a autour de nous, le monde géopolitique d'aujourd'hui, il est facile de voir que le retour de Jésus est proche. D'un jour à l'autre, il peut venir. Alors que ce temps est relativement petit, où est-ce que nous nous positionnons si nous ne sommes pas encore convertis? Et si nous sommes convertis, que faisons-nous de ce laps de temps qui reste? Dans Amos, au chapitre 4 et verset 12, il est dit « Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu ». C'est un verset qui peut être compris de deux manières. Parce que si nous ne sommes pas prêts, on peut essayer de se préparer, mais ça va mal se passer, je vous le dis. devant Dieu, ça va mal se passer. Et comme on le chantait tout à l'heure, si on prononcera cette parole, que fera-t-il de moi ? Et on le dira avec effroi, comme le chant le soulignait justement. Par contre, nous qui sommes chrétiens, nous pouvons aussi nous préparer. Comme la fiancée se prépare pour son mari, elle se fait belle et elle fait tout son possible pour être prête. Tout ce qu'il y a préparé est prêt. Ça veut dire que nous qui sommes chrétiens, nous aspirons à être auprès de Dieu. Nous qui sommes chrétiens, nous regardons aux choses d'en haut. Ce que nous pouvons lire aussi, pour ceux qui prennent des notes, dans Colossiens chapitre 3, versets 1 à 4. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Voilà de ce laps de temps qui nous reste, ce que nous avons à faire. Comment est-ce que nous nous préparons pour le retour du Seigneur ? Et enfin, je voudrais laisser aussi cette promesse. Dans le psaume 147, verset 4, nous avons un verset que je trouve admirable parce que c'est un verset qui associe des choses finies avec des choses infinies. Il est écrit, il compte le nombre des étoiles et il leur donne à toutes des noms. À nos yeux, il y a une infinité d'étoiles. Et Dieu compte toutes les étoiles et il leur donne à toutes un nom. Nous, ça nous dépasse. Parce que nous avons à la fois affaire à l'infini et à la fois, la Bible nous dit que chaque étoile a un nom. Pour ceux qui font un peu d'astronomie, les étoiles se reconnaissent toutes les unes par rapport aux autres parce qu'elles brillent d'une manière bien précise. Et il n'y en a pas une qui est comme l'autre. Nous qui sommes chrétiens, comparés à ces étoiles. J'ai deux questions par rapport à ça. C'est comment nous brillons ? Parce que nous devons refléter la lumière de Christ. Christ est la lumière du monde. Si moi je suis participant à la nature divine, je dois briller aussi. Parce que c'est un trait de caractère de Dieu et c'est donc un trait de caractère de l'enfant de Dieu. L'enfant de Dieu doit briller. Comment nous brillons ? Et la deuxième question, c'est quel nom on va avoir ? C'est une promesse que Dieu nous laisse aussi dans l'Apocalypse, chapitre 2, verset 17. On a cette promesse que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée. Je lui donnerai un caillou blanc et sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît, si ce n'est celui qui le reçoit. C'est celui qui aura compté toutes nos larmes, qui les aura toutes recueillies, qui les aura écrites dans ce livre. C'est celui qui aura marché à nos côtés jour après jour. C'est celui qui nous aura dit « Ne vous inquiétez pas ». Croyez en moi et vous aurez la paix. Pour ceux qui prennent des notes, dans Philippiens chapitre 4, nous avons quelques versets qui en parlent, versets 6 et 7, qui nous disent que la paix de Dieu, Dieu veut nous la donner. Seulement si nous faisons cet acte de foi. Il veut marcher à nos côtés. Il veut prendre le joug avec nous, si nous acceptons ses instructions pour pouvoir marcher, sachant que c'est lui qui fait beaucoup plus d'efforts que nous. Le joug est léger. Comme c'est écrit dans Matthieu. Le Seigneur Jésus nous appelle ce soir. Par rapport à tout ce que nous avons vu, est-ce que Dieu est celui qui marche à mes côtés ? Est-ce que Dieu est celui qui va me procurer cette paix qui ne peut venir de nulle part ailleurs ? Ou est-ce que Dieu sera mon juge ? Que nous l'acceptions, que nous le refusions, nous aurons toujours affaire à Dieu. Mais ne vaut-il pas mieux avoir Dieu pour tendre père plutôt que pour juge ? Peut-être que tu es dans les larmes, peut-être que tu es effondré, peut-être que tu es dans les inquiétudes. Sache que tes larmes sont recueillies dans l'outre du ciel, toutes tes larmes, et sont toutes écrites dans un livre. Dieu t'appelle aussi à te positionner. Est-ce que tu attends le juge ? Est-ce que tu crois que Dieu compte tes pas pour te surveiller ? Ou est-ce que tu crois que Dieu compte tes pas parce qu'il est auprès de toi, qu'il veut marcher auprès de toi ? Est-ce que cette parole qui dit que Dieu regarde au cœur, comment tu la vis? Est-ce que c'est une sécurité, c'est une paix et une sécurité? Ou est-ce que le fait que Dieu regarde à ton cœur te fait terriblement peur? Ce soir, pendant que nous chanterons ce chant, n'ayez pas peur de vous avancer pour demander la prière, que ce soit dans un sens, dans un autre. Le Seigneur Jésus veut simplement répandre sa bénédiction ce soir. Le Seigneur veut te consoler si tu en as besoin. Le Seigneur veut changer ta vie si tu le désires. Parce que si tu ne le désires pas, ta vie ne changera pas. Le Seigneur est là, prêt à déverser sa bénédiction sur ta vie. Le Seigneur est là, prêt à déverser sa paix sur ta vie. Si seulement tu veux bien t'approcher et demander la prière pour que, par cet acte de foi, ta vie puisse changer, tu puisses faire une expérience devant Dieu qui va te consoler, avoir cette pleine consolation, cette pleine paix. Que le Seigneur vous bénisse. Seigneur Jésus, je veux te prier pour toutes les personnes qui vont s'avancer pendant ce chant. Et je te demande ta grâce. Je te demande ta grâce, Seigneur, pour que ce soir, des victoires soient remportées, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur, parce que c'est toi qui règnes. Et nous voulons que sur notre cœur, ce soit toi qui règnes. Seigneur Jésus, je te prie, Seigneur, pour que nous tous qui sommes là ce soir, nous t'ayons choisi pour roi sur nos vies. Merci, Seigneur Jésus. Amen.